Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. C'est indispensable de comprendre que l'histoire donne un rythme au futur.
Le Mexique volontairement indien.
C'est un grand pays indien. Si la société mexicaine est aussi complexe pour nous, est aussi irrationnelle pour nous, c'est que c'est le monde indien qui l'a emporté dans le métissage sur le monde blanc, et que l'irréductibilité mexicaine à l'égard de la civilisation américaine tient de l'indianité du Mexique.
D'un côté, les États-Unis d'Amérique, de l'autre, les États-Unis mexicains. Le gouvernement de Mexico tient à cette dénomination. Beaucoup d'Américains craignent que leur pays soit hispanisé, nombre de Mexicains que le leur soit américanisé. Nous sommes en effet dans une des zones de grande effervescence du globe. Le gouvernement de Mexico d'ailleurs peine à contrôler les violences qui augmentent sur de grandes parties de son territoire, et l'inconnu Trump fait peser de graves incertitudes sur son économie qui n'est déjà pas très florissante. Aussi, le Mexique aime-t-il à offrir son meilleur visage, la culture. À cet effet, il vient d'ailleurs de créer un ministère qui lui est entièrement consacré, un peu sur le modèle français. Son premier titulaire, Rafael Tovar y de Teresa, a d'ailleurs tenu, juste avant d'être emporté par la maladie, à venir inaugurer l'exposition Mexique, qui se tient actuellement au Grand Palais à Paris. Le propos en est conforme au discours classique mexicain. Depuis le 19e siècle, surtout depuis son dernier quart, et plus encore après la longue révolution accompagnée de guerres civiles des années 1910 et suivantes, le Mexique se veut pluriculturel, et dans le métissage qu'il vit quotidiennement, il cherche à valoriser l'Indien. L'Indien est présenté dans l'ordre chronologique comme la première des figures humiliées du peuple, et dans l'ordre de l'avenir comme le premier motif de l'espérance.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Après cette présentation, un rien officiel. Salutations à Serge Fauchereau, bonjour.
Bonjour à vous.
Qui connaît le Mexique depuis bien longtemps, a publié nombre de livres sur l'art mexicain. Je citerai par exemple, on parlera du dernier un peu plus tard, chez Flammarion, les peintres mexicains. C'est dès l'enfance, dès les illustrés, que vous êtes passionné pour les Indiens du Mexique, le paysage du Mexique?
Oui, parce que c'était une civilisation qu'on n'étudiait pas à l'école. En classe de sixième, quand on a 10 ans, on vous fait étudier les Égyptiens, les Grecs et tout ça, qui sont passionnants, bien sûr. Mais le Mexique, le monde méso-américain, c'est tout autre chose. C'est beaucoup plus singulier, c'est beaucoup plus loin de nous. Et alors, naturellement, les aventuriers des illustrés, comme on disait alors, se rendaient, Brick Bradford, Luc Bradfer se rendaient chez les Aztèques ou les Mayas ou tous les anciens méso-américains et découvraient des choses extraordinaires.
Je suis un peu déçu à la lecture de votre dernier livre, Des visions du Mexique, où vous comparez deux peintres mexicains, le douanier Rousseau. Moi, je croyais que le douanier Rousseau, c'était parce qu'il avait participé à l'expédition militaire de l'empereur Maximilien au milieu des années 1860, qu'il peignait la nature mexicaine. Non, mais c'est qu'il avait lu, comme vous, des illustrés.
Oui, et puis ça lui déplaisait pas, et puis ça ne déplaisait surtout pas à ses amis, Apollinaire, André Breton, Philippe Soupeau et autres, de répéter après lui que, bien sûr, le Mexique connaissait ça très bien. La preuve, regardez les jungles qu'il peint, les animaux qu'il peint. Il se trompe un peu, parfois il met un tigre, mais bon. Mais c'est un vrai Mexique, puisque c'est un Mexique fantasmatique et qui existe, et pour des yeux de personnes qui aiment à rêver, à imaginer, c'est tout à fait le Mexique.
Avant les Aztèques, il y a eu les Olmèques, auxquels vous attachez une grande importance. Des Aztèques, enfin, c'est pas seulement une image. Vous dites qu'ils pratiquaient assez volontiers la cruauté. Voilà une grande voix d'un spécialiste du Mexique. Il va s'envoler pour l'Algérie quelques semaines après cette conférence qu'il donne en décembre 1955, et sa réputation d'ethnologue en sera un moment ternie. C'est Jacques Soustelle.
À l'époque dont nous parlons, c'était une pyramide à base rectangulaire de 100 mètres sur 80 mètres, s'élevant jusqu'à une trentaine de mètres de haut et formé de 4 ou 5 corps superposés. Sur la face occidentale, un grand escalier très large, bordé par deux rampes, terminé par des têtes de serpents. On a retrouvé il y a peu d'années une de ces têtes de serpents tout près de la cathédrale actuelle. Cet escalier, dis-je, permettait d'accéder à la plateforme au moyen de 114 degrés. Cette plateforme, à 30 mètres de hauteur, était occupée à son tour par deux sanctuaires. Chose curieuse, non pas par un seul, mais par deux. Chacun de ces sanctuaires était une construction rectangulaire avec un toit pyramidal. L'une des deux était peinte en blanc et en bleu. C'était le sanctuaire du dieu de la pluie et de l'agriculture, Tlaloc. L'autre était peinte en blanc et en rouge, et c'était le sanctuaire du dieu national, qui était aussi le dieu de la guerre et également la divinité du soleil de midi, Huitzilopochtli.
Le lieu dont parle Soustelle, c'est le site de Mexico. L'époque dont il parle, c'est l'époque de Cortés, qui arrive en 1519-1520, et puis les grandes fêtes visuelles qui permettaient aux Indiens de communiquer sont très vite supprimées. Ça ne veut pas dire que l'imagerie des Indiens va nécessairement disparaître. Elle va être recyclée, s'échanger avec celle des Espagnols.
D'autant que l'imagerie des Indiennes, dans sa réalité, elle est extrêmement diverse. Il y a une grande variété d'Indiens, que ce soit les Indiens des plaines, les Indiens des forêts et tout cela. On découvre peu à peu, il y a encore beaucoup à découvrir et à comprendre. Lorsqu'on va dans de nouveaux sites qui sont découverts en ce moment, travaillés par des Français, je pense à Tamtoc, c'était chez les Huastecs. Ceux-là, on n'en parle pas beaucoup, pour la bonne raison qu'on ne les connaît pas bien. On découvre des choses qui ne sont pas toujours très clairement explicables. Il y a beaucoup à comprendre. Il y a des Indiens, les Indiens qu'allait voir Antonin Artaud, c'était les Indiens des plaines qui ne construisaient pas de pyramides, c'était un autre monde, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de culture, mais ils n'étaient pas des constructeurs.
Vous avez entendu Soustelle dire que l'intérieur des temples était peint. Mais les Indiens, quand les Espagnols arrivent, vont être mis à contribution pour peindre les cathédrales.
Oui, les Espagnols ont très bien compris que puisqu'ils étaient capables de peindre des choses à eux, ils pourraient peindre maintenant des choses pour les croyances et les célébrations hispaniques. Donc on leur donnait des modèles et ils imitaient. De toute façon, l'imagerie, si on prend surtout les Aztèques, et l'imagerie, disons en gros chrétienne, était très proche. Clouer un homme sur la croix pour les laisser mourir comme ça, on fait difficilement plus méchant. Bon, on va arracher le cœur, ça va peut-être plus vite.
Donc, la crucifixion, oui, et la Vierge aussi.
La Vierge, bien entendu. Dans la Vierge, il y avait des sortes de vestales qui sortaient de la des plantes pour offrir du pulque, par exemple, ou d'autres choses. Les fleurs étaient très importantes, comme les animaux.
Comme chez le douanier Rousseau.
Comme chez le douanier Rousseau, ce gentil menteur.
Alors, à l'époque du douanier Rousseau, le Mexique a pris son d'indépendance. Les créoles qui sont au pouvoir trouvent quand même que les Indiens sont un peu passifs, que c'est un frein au progrès. Néanmoins, les Indiens vont prendre davantage de place dans l'imagerie à partir de l'indépendance, non ?
À partir de l'indépendance, oui. On les laisse faire ce qu'ils veulent. Donc ils peuvent décorer eux-mêmes leur maison, si simple soit-elle, mais aussi il y a une sorte de revendication, de reconnaissance de leur propre culture, que les plus fins devinent. Et ceci nous amène à ce Hermenegildo Bustos.
Alors Bustos est un des trois peintres que vous étudiez, en même temps qu'un certain Posada et en même temps qu'un certain douanier Rousseau dans votre dernier livre chez Hermann. Alors lui, il signe « Je suis l'Indien », dit-il.
Alors, Hermes Josué Bustos fait toujours attention à se revendiquer comme indien. C'est-à-dire, les Espagnols ne m'ont rien appris. Je suis indien. Je suis 100 mètres, dit-il. C'est une citation. Il se donne 100 mètres. Et se donne comme simple indien de village. En fait, on ne sait pas très bien ce qu'il faisait. Il faisait différents petits métiers, sans doute. En particulier, il était postier, semble-t-il. Il rendait des services comme cela. Mais il savait lire, il était cultivé. Donc il s'est éduqué par des livres. Et après, donc, il avait ce qu'il faut bien appeler un talent exceptionnel pour faire des...
Alors on retiendra le nom à côté du douanier Rousseau, du postier Bustos. Quand vient la Révolution, c'est très compliqué, la Révolution des années 10-20, c'est une série de mouvements qui viennent d'en bas, plus des États que de Mexico encore, d'en bas, d'en haut, d'un peu partout, avec des Indiens d'ailleurs, qui sont là. La figure de Zapata, c'est le... au moment de la Révolution, la figure de Pancho Villa. Après la Révolution, quand vient enfin une période de stabilisation, les Indiens ont maintenant vraiment droit de cité.
Oui, parce qu'ils ont été les humiliés, ils sont les pauvres qu'on a exploités, qu'on a martyrisés. Donc on essaie de se concilier leur attention en les mettant au premier plan. Alors, ça part d'une bonne idée, mais parfois, ça part aussi d'un calcul. Ils sont les plus nombreux, donc il faut les mettre de son côté. Si on vote, il vaut mieux flatter ceux qui vont être appelés à voter. On connaît ça un peu partout. Et donc, on a là un phénomène assez normal de faire remonter au premier rang ceux qui étaient au dernier. Les premiers seront les derniers. C'est un vieux proverbe.
Et c'est officialisé. Là, voilà un compositeur qui n'est pas nécessairement celui que vous préférez dans cette époque, mais c'est le compositeur officiel de l'État. C'est Carlos Chavez qui a organisé Dieu sait combien de conservatoires.
C'est un grand compositeur.
D'exposition, de festivals. Et ce morceau que vous citez s'appelle « Les quatre soleils » et doit avoir un rapport avec notre sujet. Il est interprété par l'Orchestre des musiciens américains et mexicains.
France Inter, Jean Lebrun.
L'art du Mexique à l'occasion de l'exposition du Grand Palais à Paris avec Serge Frochereau. Carlos Chavez, il va être en lien avec les chorégraphes, avec les peintres qui peuvent faire des décors, lui apporte la musique ou d'autres qui sont sous son égide apportent leur musique pour le Ballet National du Mexique qui est un peu un fédérateur de tous les arts d'après la Révolution.
Eh bien, le ballet permet d'incorporer différents types d'art, aussi bien la danse que la musique, que le décor, que les costumes folkloriques ou non. Et c'est en cela que c'est très précieux. Et quelqu'un comme Carlos Chavez savait cela. Il voulait faire de cela un art non pas facile, non pas populaire, mais accessible. C'est-à-dire que qui pouvait toucher tout le monde, dans sa finesse ou dans son impact brut. Et à cause de cela, il a effectivement été le plus vite reconnu, le plus accepté, alors que d'autres, je pense à son prédécesseur Julián Carrillo, lui qui était beaucoup plus fin, on pensait à la musique microtonale, dont je me suis cependant aperçu qu'elle venait des sonorités des Indiens, des plaines. Donc, on tourne toujours autour de ces Indiens. L'un prenait le son dans ce qu'il avait d'étrange, de bizarre, de microtonal, et l'autre prenait la musique des Indiens dans ce qu'elle avait de rythme, de danse, de couleur. Mais ça partait de même racine, tout ça.
Le palais est spectaculaire, la peinture murale l'est aussi. Vous disiez que les Indiens avaient collaboré au décor des cathédrales. Dans les cathédrales de l'art colonial, il ne devait pas y avoir un centimètre carré qui ne soit pas utilisé. La grande spécialité, la plus connue internationalement, des Mexicains, à l'époque qui nous intéresse, on est maintenant dans les années 20, dans les années 30, c'est le muralisme.
Alors, le muralisme, je crois qu'il n'aurait pas pu naître... il n'aurait pas pu naître là s'il n'y avait pas eu, là encore, des racines très profondes, très très anciennes. On en a parlé tout à l'heure, ce sont ces fresques à l'intérieur des constructions, des temples. Ce sont ces fresques que les Espagnols ont récupérées à leur profit pour faire une iconographie pour eux. Mais tout ça se mêle, il y a une sorte de syncrétisme qui se fait. On ne sait plus très bien à certains moments, lorsqu'on voit certaines cérémonies en principe catholiques, elles sont parfois tout à fait inquiétantes dans leur manifestation, dans leur cruauté parfois, se traîner par terre avec le sang partout, c'est assez choquant. Mais donc, c'est un syncrétisme. Cela. Et la peinture naît aussi d'un syncrétisme. C'est une tradition.
Il y a quatre grands muralistes. Siqueiros, le plus communiste de tous. Carlos Chavez était communiste aussi.
Oui, bien sûr.
Jean Charlot, tiens, c'est un Français.
C'est le moins connu, le pauvre. Ouais. Mais c'est de sa faute, il était Français aussi. On n'a pas idée d'être Français.
Et
de s'installer au Mexique. Mais sa famille s'intéressait au Mexique. La famille Goupil.
Et puis il y a Orozco qui était peut-être discret aussi, lui, plus introverti.
C'était peut-être le plus féroce aussi.
Oui.
C'était une sorte d'anarchiste. Je crois qu'il y a Philippe Soupeau, un monsieur de la radio, un grand poète, disait, puisqu'il avait connu les trois grands, que Rivera était parfois colérique, tout ça, mais on pouvait discuter. Siqueiros était sextaire, mais enfin, on pouvait quand même discuter. Avec Orozco, on ne discutait pas. Il démolissait tout, il cassait tout.
Rivera, peut-être le plus célèbre de tous, avant que la célébrité de son épouse ne l'éclipse, il a réalisé dans les années 30 d'énormes chantiers sans fin au Palais National à Mexico et ici au Palais Cortés à Cuernavaca.
Regardez là le geste impératif d'Hernán Cortés. Vous savez, en débarquant sur la plage, il s'est tourné vers ses compagnons, il a brûlé les navires, parce que quelques-uns voulaient revenir en arrière vers la base.
Il a brûlé les bateaux.
Il voulait revenir en arrière vers la base, vers Cuba.
Il a coupé les ponts.
C'est ça, il a coupé les ponts, il a dit je suis venu pour conquérir un empire, et en avant.
C'est ça là.
Voilà. Évidemment c'est un peu schématisé, symbolisé. On voit là les instruments principaux de la conquête, d'abord les hommes, et puis aussi les bombardes très importants qui ont effrayé les Indiens,
oui.
Les chevaux très importants aussi.
Ils ne connaissaient pas les chevaux.
Et non. Alors on les appelait d'ailleurs, on appelle quelquefois maintenant gachupin les Espagnols. Ça veut dire de gachupin. Ce sont deux mots indiens qui veut dire homme-cheval. Ils croyaient qu'ils étaient d'une seule pièce.
Au début, ils faisaient, oui.
Et Cortés, très malin, s'en était très bien rendu compte. Et alors il faisait exprès d'effrayer. Chaque fois qu'il recevait un ambassadeur, il se mettait sur un cheval, il faisait tirer les canons.
Allez, on voit.
Voilà la conquête. Alors là, c'est vraiment un tableau très célèbre et très, très symbolique. Cuauhtémoc.
L'homme à pied contre l'homme à cheval. Hein.
L'homme à cheval. L'homme à pied avec les plumes, avec la peau de soit quelquefois de tigre, soit de coyote.
C'est une émission de Marianne Morens. Elle était passionnée par le Mexique. Je crois qu'elle a gagné, dans la fin des années 60, la possibilité d'aller y faire des émissions. Encore une personne attirée, fascinée, oui. Comme vous, par le pays. Là, on avait la description de l'arrivée de Cortés, qui brûle ses vaisseaux pour que ses hommes ne soient pas tentés de retourner en Espagne. Et les Indiens dans le muralisme, alors comment sont-ils représentés?
Eh bien, ils sont représentés de deux façons antithétiques. On les a d'abord représentés dans les tout premiers temps, disons autour de 1900-1914, comme des personnages pittoresques. pittoresques par leur cruauté, par leur mœurs, par leur façon d'être. Bon, lorsque... Et ensuite, on les a représentés de façon un peu plus noble. Cuauhtémoc, celui qui a été tué par, torturé par Cortés. Et ensuite, on les a montrés comme des, au contraire, comme des humiliés. C'est la deuxième façon. C'est l'Indien battu, l'Indien pendu, l'Indien torturé, l'Indien massacré, c'est cela. Et je crois que c'est surtout cela, cette deuxième partie, qu'ont montré les muralistes.
Les muralistes, ils font, parce que les années 30 ne leur sont pas toujours très favorables au Mexique, le régime est moins attiré par eux que peut-être qu'il ne l'était au lendemain de la Révolution, au temps d'un ministre qui s'appelait Vasconcelos. Ils vont beaucoup aux États-Unis dans les années 30. Travaillent aux États-Unis ces communistes ou ces anarchistes.
Eh bien, c'est-à-dire la naissance d'un muralisme nouveau par rapport au muralisme qui existait aussi en Europe de très longue date, mais même regardez dans nos mairies, nous, il y a parfois des peintures murales, mais qui ont un petit côté désuet, elles ont un côté poussiéreux, disons, hein. Avec ces nouveaux peintres, que ce soit Siqueiros, Orozco, ou bien Rivera, ou même Charlot, et d'autres après, il y a quelque chose de... C'est la peinture nouvelle qui est là. C'est un dynamisme. C'est pas un tableau agrandi. C'est un type de peinture nouveau. Et ça a beaucoup surpris. Ça a beaucoup surpris, et ceux qui en ont parlé pour la première fois, Carpentier, Desnos, de notre côté de l'Atlantique, et de l'autre côté du Rio Grande, c'était des peintres qui n'avaient pas réussi à se faire entendre pour rénover l'art mural avec la peinture moderne. C'était le cas de Fernand Léger ou de Launay chez nous, mais ils n'ont pas vraiment été entendus.
Tandis que quand, par exemple, on fait le programme du Rockefeller Center à New York, eh ben, on fait appel à Rivera.
À Rivera, oui.
Communiste.
Oui, ou on fait ailleurs appel à Siqueiros ou à Orozco. Ils ont été tous les trois invités.
Alors, bon, ça ne se passait pas toujours bien. Ça ne s'est pas toujours bien passé. Ah ben, oui.
Pour tous, ça ne se passait pas toujours bien parce que, on leur dit, ben oui, vous faites ce que vous voulez, pas de censure aux États-Unis, la censure n'existe pas, vous faites ce que vous voulez. Alors bon, ben, on le prend au mot et notre Rivera vous peint aussi un grand Lénine, là. Alors,
donc, on a fait appel à quelqu'un qui était mieux vu des milieux académiques
voilà,
et mondains.
On a effacé la chose.
José Maria Sert, dont les fresques demeurent au Rockefeller Center à New York. Oui. Vous avez remarqué, chers auditeurs, que nous n'avons pas parlé de Frida Kahlo, l'épouse de Rivera, celle qu'on appelait la Colombe et qui a fini par faire de l'ombre au pachyderme, c'était le surnom de Rivera. On n'a pas parlé de l'assassinat de Trotsky avec la tentative de Siqueiros.
Tout ça est connu.
Quand même, vous trouvez qu'on parle trop de Frida Kahlo maintenant? C'est vous qui aviez tenté d'organiser des expositions sur Frida Kahlo il y a de cela une trentaine d'années sans succès.
Oui, j'avais fini quand même par montrer une exposition de Frida Kahlo avec Madame Olmedo. Au printemps.
Au printemps, au magasin Le Printemps.
Au magasin Le Printemps.
Mais les grands musées parisiens n'en voulaient pas à l'époque.
Non, ils n'étaient pas intéressés, ils n'étaient pas connus, qu'est-ce que c'était. Et puis, ils disaient, mais tout n'est pas intéressant. C'est vrai, mais c'est une figure, c'est un personnage, c'est très intéressant. Et il y a d'excellentes peintures, de très bonnes peintures. Évidemment, tout n'est pas pareil, mais ça valait la peine, me semblait-il.
Je voudrais qu'on parle d'un dernier Indien, l'anarchitecte. Il s'appelle Edward James, c'est quelqu'un qui appartient à la grande société britannique. Il y a un portrait de lui par Magritte, mais on ne le voit que de dos. Oui. Et d'ailleurs, on ne l'a plus vu en Europe après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il s'était installé au Mexique, et lui, il était en pleine forêt, où il construisait des folies, peut-être marquées, elles aussi, par l'indianité.
Oh, c'est un petit peu tout. Il y a de l'art égyptien, il y a tout, il y a de l'art indien.
Il avait acheté des tas d'hectares.
Ah, c'est gigantesque, ouais. C'est gigantesque. On ne peut pas tout voir. J'y suis allé plusieurs fois et je n'ai pas tout vu, je vous assure. Et ce sont des choses absolument folles dans un endroit qui est... dévorer littéralement par la forêt les fleurs et tout ça. Il construit, lui, des arbres en ciment, des bambous en ciment, des fleurs en ciment, des champignons en ciment, des temples pour les jaguars, des temples pour baignoire et tout ce qu'il faut pour les crocodiles, pour les oslos, pour Max Ernst, parce qu'il était son ami. Bref, c'est absolument merveilleusement délirant. Mais c'est merveilleux.
Alors vous y êtes allé, vous cherchez à ce que l'ensemble soit à peu près préservé, mais c'est un musée, si on peut appeler ça un musée, c'est un espace ouvert à la mort et à la ruine aussi.
Oui, il faudrait... c'est ouvert aussi à la spéculation, parce qu'on pourrait... on avait même déjà commencé à le vendre par petits morceaux. Je ne sais pas quoi faire, il faudrait le protéger, mais pas trop. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas. Il faut à la fois protéger des intempéries et surtout de la végétation qui mange tout. Les racines, les lianes, ça va très vite. C'est dans la forêt épaisse. Ah, c'est merveilleux. Vous avez des fleurs qui sont véritables. Vous avez des fleurs qui sont en ciment. Vous avez des lianes. Vous avez des constructions serpentines. Vous avez aussi des vrais serpents qui sont là.
Et de cet homme qui devait imaginer des rapports privilégiés avec les Indiens, de l'œuvre de cet homme, il peut advenir ce qu'il est advenu de l'œuvre des Indiens, récupérée par la jungle.
Récupéré par la jungle, oui, mais ce sera pas perdu, je crois, je suis sûr. On va s'occuper de ça comme on s'est occupé du reste. C'est pas facile. La spéculation est toujours là, prête à tout dévorer, et beaucoup plus dangereuse que les lianes et les racines.
On va marquer, c'est comme une stèle pour finir cette émission, cette réflexion avec... des propos d'Octavio Paz, grand intellectuel.
Oui, dont on n'a pas mentionné le nom, et c'est bien dommage, c'est pas juste.
Et on les complétera par ceux de Carlos Fuentes. C'est juste qu'ils aient la dernière place, qui est la première.
Oui.
Je pense qu'il ne faut pas tuer le passé indien. Il ne faut pas tuer non plus le passé espagnol. Il faut trouver une façon d'harmoniser tout ce passé. Les digérer. Ça, c'est le grand problème. Je pense que c'est le problème où les politiciens doivent et les ethnologues. Je pense que le Mexique est vivant parce qu'il y a un passé. Mais ici, peut-être, il y a trop de passé. Alors, il faut que ce passé, au lieu d'être inerte, passif, devienne actif, commence à parler. Je pense que, par exemple, les Indiens, c'est une réalité passée et présente. Il faut qu'ils parlent.
Si tous ces canaux se communiquent entre eux, alors le problème des Indiens ne devient plus un problème. Les Indiens auront quelque chose à nous donner et nous aurons quelque chose à leur donner. Et à travers cette communication, on arrivera au grand but qui est en fait de créer un pays métis, un pays sans racialisme.
Allez, comme ça on peut réparer un oubli de votre part, vous auriez dû... dédié à Octavio Paz. Votre dernier livre, Serge Fauchereau, des visions du Mexique, qui est consacré au douanier Rousseau, à Posada, qui peignait beaucoup de squelettes et de cavalcades de morts, et à Bustos, l'Indien qui signait comme tel dès le 19e siècle. Et puis je rappelle, sous votre plume aussi, les peintres mexicains aux éditions Flammarion.
Herman l'autre.
Et Herman le premier, oui, des visions du Mexique, c'est chez Herman. Et puis c'est au Grand Palais à Paris qu'a lieu l'exposition Mexique jusqu'au début de 2017. L'émission a été réalisée par Valérie Aestaray, préparée par Frédéric Martin, avec à la technique Julien Michel. Et au programme de La Tête au Carré dans un instant.
Oui Jean, on va s'intéresser à la moitié de l'humanité préhistorique, les femmes.